Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir le grand débat et la lecture officielle des premières conclusions de deux mois de réflexion. Avec comme doléance première, la baisse des impôts. Dossier complet dans un instant. L'affaire Benalla, suite et le parquet de Paris qui ouvre deux nouvelles enquêtes préliminaires. Et ce, pour faux témoignage. Le football, c'est une information RTL. Le grand Pelé est sorti ce soir de l'hôpital américain où il avait été admis la semaine dernière, au soir de sa rencontre avec Kylian Mbappé. Pelé est sorti de l'hôpital en fauteuil roulant et il s'est rendu tout à l'heure à l'aéroport pour prendre un vol pour le Brésil. Le football sur le terrain, France-Danemark à Strasbourg, c'est du football féminin. Dernier match avant la liste. Sylvain Charlet, on fait un point avec vous.
Et oui, et c'est la France qui mène à 1-0. Les joueuses font leur apparition pour le début de la deuxième période. Un but de Delphine Cascarino à la demi-heure de jeu.
À tout à l'heure, Sylvain. À tout à l'heure. La météo, toujours l'instabilité pour demain. 22h20, votre rendez-vous avec le magazine de l'Écho. Puis Thomas Dutronc sera notre invité VIP ce soir, avant, comme chaque soir de la semaine, de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Je vous le disais à l'instant, le parquet de Paris a donc décidé ce soir d'ouvrir deux nouvelles enquêtes, notamment pour faux témoignages dans l'affaire Benalla. Décryptage avec vous, Thomas Proutot.
Oui, et cela pour l'ensemble des protagonistes, aussi bien donc Alexandre Benalla et Vincent Crase, soupçonnés d'avoir maquillé la vérité devant les sénateurs. Le premier au sujet de ses passeports diplomatiques, le deuxième sur le contrat de sécurité passé avec un oligarque russe alors que les deux hommes étaient encore en poste à l'Élysée. Mais le parquet va aussi se pencher sur les déclarations devant le Sénat de trois ultra-proches d'Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, le directeur de cabinet du chef de l'État, Patrick Strauss, et le général qui commande la sécurité d'Élysée, Lionel Lavergne. Alors le procureur de la République avait sans doute peu de marge de manœuvre face à de possibles faux témoignages signalés par les sénateurs. Le choix d'ouvrir une enquête préliminaire semblait s'imposer. Mais concrètement, cela veut dire que ces hommes du premier cercle, du chef de l'État, vont être entendus par la police judiciaire comme mis en cause. C'est une nouvelle fois une première sous la Ve République. Quant à Alexandre Benalla, eh bien c'est désormais la sixième enquête qui vise l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron.
Merci pour toutes ces précisions, Thomas. Proutot, service police-justice d'RTL. La grande consultation est terminée après deux mois de discussions, d'échanges, de doléances diverses et variées et de grands débats partout en France. L'heure était donc ce midi sous la nef du Grand Palais à Paris à la synthèse globale. Exercice de style réalisé par Édouard Philippe qui a mis en exergue l'exaspération fiscale des Français. Dominique Tenza.
Oui, c'est d'abord ça, et il a longuement insisté sur ce point. C'est de loin la première doléance des Français, la coupe est pleine, et le Premier ministre en a bien conscience.
Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Nous avons baissé les cotisations sociales, baissé la taxe d'habitation, baissé l'impôt sur les sociétés. Sans doute pas assez vite, pas assez fortement, sans doute pas assez clairement, car manifestement cela n'a pas suffi à répondre au ras-le-bol. Nous devons baisser, et baisser plus vite. Les impôts.
L'exaspération fiscale, thème numéro un de ce grand débat, mais c'est loin d'être le seul au fil des cahiers. Des mots reviennent avec insistance, isolement, abandon, indifférence. Globalement, les Français réclament plus de justice, d'équité, d'exemplarité dans tous les domaines et notamment chez leurs représentants.
Il faudrait être d'un aveuglement absolu pour ne pas voir les mots très violents à l'encontre du gouvernement, des élus, renouer avec une forme de confiance, c'est le grand défi de notre génération politique.
Autre défi, le climat, et c'est une bonne nouvelle, explique Édouard Philippe. Les Français aiment l'écologie, oui, mais ils n'aiment pas les taxes. Et là aussi, il y a sans doute quelque chose à inventer. Bref, le chantier paraît immense, mais il doit être mené à son terme, insiste Édouard Philippe.
Hésiter serait pire qu'une erreur, ce serait une faute. Le besoin de changement est si radical que tout conservatisme, toute frilosité serait, à mes yeux, impardonnable.
Comme pour mieux prévenir face à l'ampleur de la tâche qui s'annonce, les fainéants et autres réfractaires n'ont qu'à bien se tenir.
Dominique Tenza, service politique de la première radio de France. Dans l'attente des premières mesures qui seront dévoilées dans quelques jours par le président de la République lui-même, nous serons à la fin de votre journal dans 10 minutes pour être précis avec l'une des gilets jaunes de la première heure, Ingrid Levavasseur. Et puis ce soir, la contre-attaque de Carole Ghosn dans RTL Soir, invitée exceptionnelle de Marc-Olivier Fogiel, l'épouse de l'ex-grand patron de l'empire Renault-Nissan-Mitsubishi, a parlé ce soir de coup monté de la part du constructeur japonais, le constructeur Nissan, pour expliquer le retour en garde à vue de son mari au Japon.
C'est dommage que les gens l'ont déjà jugé. C'est ça qui est vraiment triste dans cette histoire. Et ce goût pour l'argent, je pense tout est exagéré. Parce que Carlos avait l'opportunité d'aller travailler. Obama, en 2008, lui a offert une position d'être le CEO de GM.
De General Motors.
Oui,
donc,
et il a refusé Carlos. Et le salaire était double, pas triple de son salaire. C'est pas Carlos seul qui signe. Donc tout ce qu'ils disent, moi je ne comprends pas. Sans preuve que les gens croient tout. Moi, je pense que c'était un coup monté de Nissan. Et ils essaient de convaincre Renault de rentrer avec eux.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'ils avaient peur de faire une compagnie des deux. Ou trois, en fait. Il avait Mitsubishi aussi.
Donc, Carlos Ghosn devenait embarrassant pour eux ?
Non, c'était pas leur plan, les Japonais. Ils ne voulaient pas de ça.
Alors que c'était la volonté de Carlos Ghosn. Donc, à vous écouter, il fallait s'en débarrasser. C'est ce que vous nous dites.
Hein. Oui, oui.
Et c'était ce qu'il s'apprêtait à démontrer dans cette conférence de presse qu'il devait donner dans les jours qui viennent, c'est ça ?
Vous allez voir.
Vous allez voir et entendre, peut-être dans quelques heures maintenant, dans quelques jours, cette défense de Carlos Ghosn. En tout cas, Carole, son épouse, on a appelé ce soir, toujours aux côtés de Marc-Olivier Fogiel, on a appelé à la présidence Emmanuel Macron pour intervenir auprès des autorités japonaises. Réponse ce soir de l'Élysée avec vous, Olivier Bost.
Eh bien, l'Élysée fait le minimum syndical. L'entourage d'Emmanuel Macron se contente de rappeler quelques principes de base. Carlos Ghosn est injusticiable comme les autres. La justice suit son cours en France comme au Japon. Le gouvernement n'a pas à se prononcer sur ces éléments en vertu de la séparation des pouvoirs. Une neutralité tenue aussi par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire.
Carlos Ghosn, comme n'importe quel justiciable français, bénéficiait de la protection consulaire de la France. C'est une protection qui lui est garantie, qu'exerce notre ambassadeur au Japon. Il bénéficie également de la présomption d'innocence.
Ni plus ni moins donc, Bruno Le Maire est depuis le début de l'affaire lui aussi en service minimum. Il n'y aura donc pas de geste ou d'initiative d'Emmanuel Macron pour répondre à l'appel de Carole Ghosn sur RTL. En revanche, précise l'Élysée, le gouvernement reste vigilant pour le respect des droits et de l'intégrité de Carlos Ghosn en tant que citoyen français. Vigilant donc, mais pour l'instant sans intervenir.
Merci Olivier Bost, service politique d'RTL. On vient d'apprendre, la Société Générale va supprimer 1600 postes, dont environ 700 en France, notamment dans sa banque de financement et d'investissement.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
6 à 10 mois de prison ferme et des victimes indemnisées pour deux militants véganes qui avaient sévi dans le Hauts-de-France en vandalisant des boucheries de la région. Des peines aménageables certes, mais sévères pour Julia, militante qui elle a écopé de sursis.
Ils n'ont rien fait de mal, ils ont juste dénoncé une injustice. Toutes les grandes luttes ne sont pas arrêtées de manière pacifique. Chacun sa définition de la violence. Une violence qui concerne des dégâts matériels est punie, alors qu'une violence commise envers des individus, elle n'est pas punie. Aujourd'hui, jour et nuit, il y a des individus qui sont torturés, qui sont massacrés, que ce soit dans les abattoirs, que ce soit dans les bataillères, que ce soit dans les élevages, dans les laboratoires, dans les cirques avec animaux, dans les delphinariums. Cette violence-là, elle continue. Et étrangement, elle n'est pas punissable et elle est autorisée.
Julia Halil avec Antoine de Carne pour RTL. Et sentiment ce soir du président de la Confédération française de la boucherie après ce jugement, Jean-François Guillard.
C'est ce qu'on attendait. On ne peut pas casser impunément, on ne peut pas détruire le bien d'autrui. Vous savez, un artisan vient souvent toute sa vie dans son magasin. C'est son outil de travail, c'est sa maison et c'est le fruit de toutes ses économies. Donc on ne peut pas casser un commerce. Ça mérite sanctions. Nous sommes satisfaits. Donc c'est tout simplement le bon sens.
Jean-François Guillard avec Virginie Garin. Puis une fromagerie du groupe Lactalis a été condamnée aujourd'hui à une amende de 50 000 euros pour avoir déversé des rejets toxiques dans une rivière en Isère. Le parquet avait demandé au préalable 500 000 euros. Il est 22h09 à la veille des élections législatives en Israël où le Premier ministre Benjamin Netanyahou ambitionne un cinquième mandat malgré les scandales de corruption qui l'entourent. La sécurité est-elle toujours encore en tête des préoccupations de la population? Alors en immersion pour RTL, nous sommes allés sur place avec Julien Fautra, envoyé spécial pour la première radio de France à Sderot, ville israélienne, toujours sous la menace des bombardements.
Oui, sous les pistes de sable réservées à l'armée, des capteurs sont installés contre d'éventuels tunnels construits par le Hamas. Des drones surveillent la frontière 24 heures sur 24. Sonia, institutrice, a grandi ici depuis toujours. Elle ne se promène qu'à proximité d'abris anti-bombardement.
Ici, il n'y a que la question de la sécurité. Si vous allez dans le centre du pays, les gens penseront aussi aux questions économiques et sociales. Mais ici, à chaque cessez-le-feu, on espère. Mais on est toujours déçus. Et la guerre reprend.
D'un côté, les militaires qui s'entraînent au tir. De l'autre, les habitants qui vivent en permanence au rythme des missiles et de l'état de la situation politique entre Israël et Gaza. Selon eux, un seul candidat crédible,
Benjamin Netanyahu.
En dépit d'une situation qui ne s'est pas apaisée ces dernières années, c'est le charisme de Netanyahu qui convainc Mikhaïl.
Je ne vote que Netanyahou, le seul qui peut être président. À Sderot, on a beaucoup de missiles, mais on est vraiment protégé. Bibi sait ce qu'il fait.
Netanyahou a remporté les dernières élections sur le thème de la sécurité et il a su s'imposer, notamment ici, en périphérie des villes, comme le seul légitime sur ces questions.
Julien Fautra, envoyé spécial en Israël pour RTL. L'inquiétude en Libye, où de violents combats opposent en ce moment les troupes du gouvernement aux forces du maréchal Haftar en marche vers la capitale Tripoli. Les vols là-bas y sont suspendus. L'Europe appelle à cesser cette offensive, craignant une guerre civile. Ça bouge toujours en haut lieu aux États-Unis. Donald Trump a décidé de remplacer ce soir le patron de la prestigieuse police d'élite, le Secret Service, et ce au lendemain d'un autre départ inattendu, celui de la ministre de la Sécurité intérieure. Enfin, chez nous en Europe, après être passée aujourd'hui par Berlin, Theresa May, la première ministre britannique, sera chez nous à Paris. Elle viendra plaider en faveur d'un nouveau report du Brexit. Elle va rencontrer Emmanuel Macron. Et pendant ce temps-là, les Britanniques, eux, se préparent à voter au final pour les élections européennes. Annonce faite ce soir par le porte-parole du gouvernement. Et puis un nouveau succès pour la médecine, pour nos méthodes françaises en matière de chirurgie cardiaque, avec l'opération réussie avec succès d'un cœur de rocker pas comme les autres, Odile Pouget, opération réussi grâce à un inventeur français, Odile.
Et oui, cette technique qui consiste à faire passer une valve aortique artificielle par l'artère fémorale et à la catapulter jusqu'au cœur a été inventée en 2002 par le professeur Alain Cribier, chef à l'époque du service de cardiologie du CHU de Rouen. Depuis cette date, eh bien, plus de 400 000 patients en ont bénéficié dans le monde entier. Mais évidemment, le médecin n'est pas peu fier lorsqu'on évoque le cas du rocker.
Mick Jagger, c'est Mick Jagger. Donc on ne peut que se féliciter de le voir bénéficier de cette avancée technologique. Et c'est un excellent exemple, Mick Jagger, de ce qu'on peut faire maintenant pour traiter des patients atteints de rétrécissement aortique en évitant l'opération lourde.
Et en effet, plus d'ouverture du thorax, plus d'arrêt du cœur, juste une anesthésie locale, une sortie précoce et surtout, pour le rocker, comme pour tous les autres patients, un retour au travail très rapide, une semaine plus tard. Et pour cela aussi, le cardiologue se réjouit.
J'ai cru comprendre qu'il avait un programme à suivre assez lourd, des concerts qui étaient prévus dans quelques temps. Donc, il valait mieux qu'il puisse récupérer rapidement. Les fans se réjouissent, et moi avec beaucoup.
La seule incertitude d'aujourd'hui, c'est la durée de ces valves spécifiques. Mais un cœur de rocker, c'est assez éternel.
Les Stones, Mick Jagger et la technologie française. Le football féminin retourne à Strasbourg faire un point rapide sur nos Françaises. Dernier match de préparation avant la grande liste des Bleus, avant notre mondial. Sylvain Charlet, France-Danemark.
Et elles ont fait le break, les Françaises, Christophe. 3 buts à 0, 55 minutes de jeu. On s'était quitté 1-0 à la pause. Et bien, le doublé pour Delphine Cascarino à la 47e minute. Une superbe frappe pied droit extérieur de surface de réparation et sur un ballon qui traîne dans la surface de réparation. C'est la joueuse de la charnière centrale, Gridje Mbok, qui triple la mise à la 54e minute de jeu. Ça déroule, 3 buts à 0 pour les Bleus. C'est parfait pour les filles de Corinne Diacre ce soir.
C'est très bien pour la préparation. 8 avril, la marque d'une pierre blanche pour la famille Griezmann. Deuxième enfant, et oui, un nouveau garçon dans la famille. Après la petite sœur, née à 8 avril également. Deux petits béliers à la maison pour les Griezmann. Je vous rappelle l'information RTL du soir avec les nouvelles du roi Pelé qui a quitté tout à l'heure l'hôpital américain de Neuilly après y avoir séjourné une semaine suite à une forte poussée de fièvre. Il est sorti ce soir en fauteuil roulant direction l'aéroport et un retour à la maison programmé au Brésil. La météo pour demain, attention, ça sera mi-figue, mi-raisin sur l'ensemble de la France.